L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Alors, ce soir, émission un petit peu spéciale, puisque ben, comme vous l'entendez, je suis tout seul cette fois-ci, donc il n'y a que moi, Alexandre étant indisponible exceptionnellement. Puis bon, ben, moi, je suis venu parce que ça a été ma faute pour les deux dernières émissions annulées, donc chacun son tour. Donc aujourd'hui, ben, au programme, comme d'habitude, quelques actualités du monde de l'informatique et de l'informatique libre de préférence, et une petite dégeekalisation pour s'amuser pendant l'émission. Je sais pas, j'ai pas envie de la faire à la fin cette fois-ci, donc on verra comment ça va se passer. Et le tout avec quelques musiques libres pour faire des petites pauses, parce que ça va être nécessaire quand on est tout seul. Musique libre prise dans des vieilles émissions, parce que ben, je n'ai pas eu le temps de préparer plus de musique que ça. Donc on va commencer par une section où on a eu pas mal d'actualités ces dernières semaines. On va parler internet et vie privée. On va commencer par un gros dossier qu'il y a eu. Alors je sais pas, dans les actualités il y a quelques liens avec ben, notamment l'élection de Donald Trump autour de ça, même si ben, pour l'instant c'est le gouvernement Biden qui est derrière les différents ministères aux États-Unis, mais a priori avec l'équipe de Trump, ça serait pas forcément mieux pour l'entreprise qui est ciblée en l'occurrence. Il s'agit de Google, et donc ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Donc on a déjà expliqué le principe des abus de position dominante et des situations finalement monopolistiques qu'exploite le premier des GAFAM, hein, dans l'ordre. Hein, le premier des GAFAM, donc c'est Google. Et donc, le ministère de la Justice américain appelle à la séparation de Chrome, le navigateur web de Google, du reste de l'entreprise Google. Ça serait un gros choc. Alors, est-ce que ça va avoir lieu? Évidemment, pour l'instant, c'est juste un appel, mais c'est quand même relativement fort, puisque c'est le département de la Justice américain qui appelle à cette séparation. Et surtout, quel impact ça pourrait avoir? Alors, c'est assez difficile à imaginer, parce que je pense que honnêtement, avant que ça commence à arriver, peu de monde se posait cette question. Parce que on se disait, voilà, effectivement, on parlait tous de l'impact négatif qu'avait Google en étant aussi gros. Et finalement, maintenant qu'on commence à parler de séparation des différentes entités de Google, quelles vont être les conséquences? Comment ça va se passer? Là, c'est assez difficile de répondre à ça. Parce qu'effectivement, Google est devenu tellement gros. Et c'est justement le problème de la position dominante. Google est devenu tellement gros. Si Google Chrome devait disparaître, quelle serait la conséquence pour les plus petits navigateurs web, en l'occurrence pour Mozilla, par exemple? Parce que si Google se sépare de son entité Google Chrome, est-ce que Google va continuer de financer le développement de Mozilla en échange d'une première place en moteur de recherche? C'est assez compliqué. La situation actuellement n'est pas claire. Donc, on avait dit déjà en septembre, on avait dit que, en août, il avait été reconnu que Google avait monopolisé le marché de la recherche sur Internet et avait abusé de sa position dominante. Les conséquences sont assez difficiles à imaginer. Donc, on va voir comment ça va se passer, parce que, effectivement, là, c'est pas très clair pour l'instant. Google a imposé Google Chrome à travers principalement son moteur de recherche à la base. Est-ce que séparer Google Chrome du reste de Google, ça serait suffisant pour réintroduire la concurrence là où on en a besoin? Je ne suis pas oracle, je ne peux pas deviner. Mais là, ça va être une grosse affaire à suivre, sachant que donc l'équipe de Donald Trump, a priori, Donald Trump n'est pas fan de Google, donc la dernière élection américaine ne devrait pas aider franchement la situation de Google. Donc ça, ce sera à suivre. Mais on n'hésitera pas à vous en parler dès qu'on en saura plus, sachant que là, vu le niveau de l'actualité, pour l'instant, je me doute que dans la plupart des grands médias francophones, on va pas trop en parler, mais vu le poids de la décision que ça serait, je pense que ça fera beaucoup de une sur l'ensemble de la planète. Autre nouvelle concernant Google. Alors, on a parlé de ça, j'ai toujours adoré ce nommage chez Google. Donc, on a parlé de Google Chrome, le navigateur web. Et donc, il y a chez Google, à un moment, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans à peu près, Google avait 3 systèmes d'exploitation en développement. Il y en a un qui a été mis plus ou moins à la benne, donc il s'agissait de Fuchsia. On n'a jamais trop compris, personne n'a jamais compris à quoi ça servait, hein, clairement, on ne sait pas. Donc Fuchsia a été mis à la benne, et maintenant, ce qui remplace, enfin, les deux systèmes qui restaient, c'était Android, donc pour les téléphones portables, tablettes, et Google, et Chrome OS, donc un système qui est fait plutôt pour des ordinateurs portables où on a en fait accès qu'à un navigateur web, grosso modo, et à une bibliothèque d'applications Google. Alors, c'est pas très répandu en France, c'est beaucoup plus répandu aux États-Unis, de tout ce que j'ai lu et vu. Et donc, Chrome OS pourrait disparaître et être remplacé par Android, tout simplement. Et effectivement, quand on voit le fonctionnement d'un Chromebook, donc les ordinateurs utilisant Chrome OS, bah effectivement, c'est très proche du fonctionnement d'Android. Donc, quel est l'intérêt de garder Chrome OS et Android ? Mieux vaut faire converger les deux en une seule solution, donc à suivre. Maintenant, c'est une actualité qui concerne Google. Google est quand même extrêmement changeant, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et on a eu beaucoup d'actualités concernant Google ces dernières semaines. J'ai l'impression que c'est un peu la curée. La décision de justice initiale qui a reconnu l'abus de position dominante, j'ai l'impression que ça a été le signal pour tout le monde pour dire ok, on va prendre tous les dossiers, on va poursuivre Google parce que effectivement on est d'accord et ça nous a impacté également. Donc les États-Unis ont reconnu Google coupable et désormais le Canada poursuit également Google pour abus de position dominante sur la publicité en ligne. Donc là, les États-Unis c'était sur le moteur de recherche, là c'est la publicité en ligne, sachant que Google a réussi à prendre l'immense majorité du marché, soit en tuant, soit en rachetant les rivaux éventuels, donc notamment DoubleClick, je crois, DoubleClick a été racheté par Google, c'était un concurrent à une époque, et ainsi de suite, ils sont en situation effectivement de monopole sur la publicité en ligne, ce qui leur vaut des poursuites. Et à propos de publicité, Google est relativement triste. Enfin, triste. Ils ont accepté de se mettre en conformité avec une réglementation européenne qui interdit la publicité politique en ligne. Et donc, ils ont annoncé, Je cite, nous savons que les publicités politiques sont une ressource précieuse pour les électeurs qui souhaitent trouver des informations et pour les candidats qui souhaitent partager leur message. Nous regrettons donc de devoir prendre cette mesure. Sachant qu'en fait, il a été démontré par différents professionnels, des sociologues, etc., des politistes. Et aussi, ça a été vu à travers le scandale Cambridge Analytica que, la publicité politique en ligne, c'est pas nécessairement une bonne chose. J'ai rappelé assez brièvement le fonctionnement quand même des algorithmes publicitaires et des algorithmes de Facebook, YouTube et autres. Le principe est quand même assez simple. C'est d'analyser votre comportement, analyser ce que vous allez lire, ce à quoi vous allez réagir, ce que vous allez commenter, ce sur quoi vous allez cliquer, même ce que vous allez juste voir sur votre écran et combien de temps vous allez le voir, tout ça c'est disséqué, analysé par des systèmes automatiques, évidemment, c'est pas des humains qui se farcissent tout ce travail, et de là ça en déduit les préférences d'une personne. Et à partir du moment où on en a déduit les préférences d'une personne, il y a 2 stratégies. Soit proposer uniquement du contenu qui va aller dans ce sens pour créer une récompense pour l'utilisateur, puisque on vous montre des gens qui sont d'accord avec vous. C'est réconfortant. Tout le monde est d'accord avec moi dans ma bulle. C'est parfait. Donc ça, c'est le premier aspect de la bulle. C'est on vous donne que du contenu avec lequel vous serez d'accord, que du contenu qui va être positif pour vous. Et le deuxième élément qu'on peut vous montrer, ça va être au contraire quelque chose qui va vous présenter d'une façon qui va vous choquer pour vous inciter à réagir. Mais il n'y aura pas de milieu, il n'y aura pas de graduation, ce sera l'un ou l'autre. Et finalement, le débat politique, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des partis, il y en a beaucoup. Il y a des candidats sur tous les bords, il y a de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les centristes, la gauche, enfin les différentes variantes de gauche, les différentes variantes de droite, même si clairement ça balance de plus en plus vers l'extrême droite en France et dans de nombreux pays ces dernières années. Mais la balance qui est faite par les systèmes en ligne n'est pas compatible finalement avec cette finesse. C'est là l'intérêt en fait de vrais débats publics, de vrais débats politiques. La publicité politique n'est pas compatible avec la démocratie, ou en tout cas pas compatible avec une vraie pluralité d'opinions. Donc c'est normal de restreindre la publicité en ce qu'elle n'est pas compatible avec le débat politique. On en a fait beaucoup sur Google, j'en avais une dernière, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant, donc on va juste le passer très rapidement. Des changements autour de Google Maps, on en a bien parlé lorsqu'elles sont passées, les lois européennes, le DMA et le DSA, qui impactent considérablement donc le marché numérique. Et donc là, en l'occurrence, ça impacte Google sur... encore une fois, c'est une forme d'abus de position dominante. Google Maps est en situation de leader sur le marché de la carte en ligne, malheureusement, ou heureux. Enfin, tout le monde l'utilise, malgré son coût assez exorbitant dès qu'on veut faire un site complet. Enfin, dès qu'on veut avoir du trafic avec Google Maps, le prix est assez élevé, mine de rien. C'est pour ça que beaucoup de gens cherchent à remplacer Google Maps sur les sites, sur les sites d'entreprise, parce que c'est là où ça peut coûter vraiment des centaines de milliers d'euros par an pour afficher les cartes dès qu'on commence à intégrer certaines fonctionnalités. Et donc, Google Maps est en situation de dominance, et nécessairement, les lois de réglementation du marché numérique demandent à ce que certains comportements ne soient pas autorisés. Et donc là, en l'occurrence, le comportement de Google, c'est le fait de vous inciter à passer par les services de Google pour faire des réservations d'hôtels ou des recherches d'hôtels, parce que vous êtes sur Google Maps. Si Google Maps vous redirige automatiquement vers ça en mettant en avant les hôtels qui sont accessibles à travers les services de recherche de Google, forcément, ça crée un biais, ça crée une distorsion de la concurrence. Et si le régulateur laisse faire, derrière, ça veut dire que les concurrents vont disparaître et on finira par se retrouver dans une situation où il n'y aura plus que Google et où Google pourra faire ce que font toutes les entreprises qui se retrouvent dans cette situation-là. Google pourra dicter ses prix et sa loi, et tous ceux qui refuseront d'utiliser les services de Google, qui refuseront de payer cette dîme, se trouveront lésés. Et au final, on va pouvoir prétendre que c'est en faveur du consommateur, que ça simplifie, etc. Alors que la simplification n'est pas si logique que ça. Google pourrait très bien permettre d'intégrer d'autres fournisseurs extérieurs de la même façon qu'ils s'intègrent eux-mêmes. Donc il n'y a pas cet aspect-là, et surtout l'impact sur les prix et sur la liberté des entreprises et des consommateurs, cet impact-là n'est pas négligeable. Donc en Europe, Google va commencer à réduire l'intégration de ces systèmes de recherche d'hôtels dans Google Maps en disant on va arrêter ça. Et donc là, c'est prévu notamment pour l'Allemagne, la Belgique et l'Estonie, ils vont purement et simplement supprimer l'affichage dans Google Maps de leurs offres de réservation d'hôtels, vraiment la partie intégrée à Google Maps. Et on ne va pas parler que de Google, autre changement qui devrait avoir lieu prochainement du côté d'Apple cette fois, et qui est imposé par l'Europe. Et j'aime bien quand l'Europe prend ce genre de décision, parce que je trouve c'est important pour montrer vraiment l'union entre les différents pays européens. Apple aujourd'hui fait des différences fonctionnelles assez importantes au niveau de son App Store, d'Apple Arcade, de musique, iTunes Store, Books et Podcasts, entre les différents pays de l'Union européenne. Les contenus affichés ne sont pas forcément les mêmes, même la présentation globale de l'interface n'est pas la même, et en fait, ça, c'est illégal en Europe. On ne peut faire de discrimination entre les clients de l'Union européenne sur la base de leur nationalité ou de leur résidence. Et moi, j'aime bien ce genre de décision, puisque ça pousse à effectivement avoir l'Europe comme étant une unique entité. Et c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Maintenant, le blocage doit être ces différences doivent être justifiées puisqu'elles sont quand même autorisées pour tout ce qui est exception de copyright ou juste c'est logique, on va pas proposer des livres en français à des clients allemands ou estoniens, on en parlait avant, un exemple de pays de l'Union Européenne, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est pas ce que demande l'Union Européenne. Ce que demande l'Union Européenne, c'est vous devez proposer un logiciel identique, il ne va pas y avoir de différence de fonction, de présentation entre les différents pays. Donc ça me semble plutôt logique et j'apprécie quand il y a ce genre de décision, puisque on parle d'Union Européenne, ça c'est bien, je trouve, de montrer justement un côté un peu uni. Après ces 15 premières minutes de monologue, on va se faire un premier morceau de musique. On va écouter Messies de Seth Power sur Radio Campus 106, la radio numérique terrestre et campuslille.com. N'hésitez pas aussi à... Alors, moi, j'ai pas de compte Twitter, je peux pas suivre ça pendant l'émission. N'hésitez pas à venir aussi sur Libera Chat, sur le salon Stinux, si vous voulez discuter en direct. Parce que, c'est ouvert et il y a du monde. Et sinon, on se retrouve dans quelques minutes après Messies de Seth Power. A tout de suite.
Is it fair to believe, not to blame for our mistakes that we make.
C'était Messies de Seth Power sur Radio Campus 106,6, Radio Numérique Terrestre et Campusville.com. Vous écoutez l'écho des nous. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pas envie de refaire tout de suite des actualités. On va faire ce qu'on fait d'habitude en fin d'émission parce que j'aimerais bien avoir vraiment bien le temps d'aborder le sujet parce que c'est pas si simple que ça. Et ça risque d'être assez important dans l'année qui vient et même un peu pour après. Donc j'aimerais bien pouvoir bien présenter le sujet aujourd'hui en on va faire donc une dégeekalisation en milieu d'émission pour s'amuser et on va parler de l'arrêt de la 2G et de la catastrophe en prévision. Alors, je suppose que vous avez tous et toutes entendu parler du déploiement en fanfare de la 5G, du déploiement avant-elle de la 4G. Vous vous souvenez peut-être du déploiement de la 3G pour ceux qui sont les plus férus de technologie et qui se souviennent des déploiements de technologie d'il y a 20 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on peut parler de catastrophe en prévision en parlant d'arrêt de la 2G? Tout d'abord, donc, on va redonner les noms des différentes technologies. Donc, la première technologie de communication sans fil, qui était l'AMPS, donc la 1G, n'existe plus depuis très longtemps. C'est terminé. J'ai même pas les dates de disparition tellement ça date. Donc ensuite sont venues la 2G, la 2,5G, 2,75G, donc les technologies GSM, GPRS, Edge, pour ceux qui se souviennent du petit E sur le téléphone à l'époque, quand votre connexion internet était très lente, parce que vous étiez passé en Edge et vous aviez plus 3G à ce moment-là. Donc là, ensuite, il y a eu la 3G, la 3G+, 3G++, donc avec UMTS, HSPA, etc. Et enfin, la 4G, avec LTE et la 5G qui n'a pas vraiment de nom d'unique technologie correspondant. La plupart des gens aujourd'hui ont un téléphone 4G ou 5G. Du coup, quand les opérateurs commencent à dire la 2G et la 3G, ça nous coûte cher, parce que il faut maintenir le réseau, c'est des bandes de fréquences qu'on a, mais on n'en a plus besoin. Pourquoi est-ce qu'on continuerait de maintenir le service? Voilà, et plus personne ne s'en sert. Débarrassons-nous-en. Et donc, les différents opérateurs, donc il y a trois opérateurs qui ont des licences 2G et 3G, donc il s'agit des SFR, Bouygues et Orange. Et donc, les trois opérateurs ont annoncé, dans le cas de SFR et de Bouygues, fin d'année 2026, il n'y aura plus de 2G. Dans le cas d'Orange, c'est 31 décembre 2025, plus de 2G. Et la 3G a des dates similaires autour de 2028-2029. Donc, ça paraît lointain dit comme ça, mais on est le 1er décembre 2024. Donc, fin 2025, le 31 décembre 2025, c'est dans un an. Donc les téléphones qui peuvent être achetés aujourd'hui sont impactés par ce changement à venir. Et là, on va me dire, mais aujourd'hui, plus personne n'achète de téléphone 2G ou 3G. Et c'est là qu'il y a de la partie technique qui devient plus rigolote. Ou triste, ça dépend du point de vue. Moi, je trouve ça relativement triste, le comportement des opérateurs sur ça. Et on va avoir des conséquences assez compliqué à gérer autour de tout ça, et on va pouvoir se baser sur la catastrophe que ça a été dans d'autres pays comme l'Australie, pour voir que effectivement c'est pas si simple que ça. Donc en Australie, le problème, ça a été l'arrêt du réseau 3G, donc c'est pas tout de suite en France, mais déjà l'arrêt du réseau 2G va poser un premier gros problème. Donc d'abord, on va se concentrer sur les téléphones, si vous le voulez bien. Donc aujourd'hui, vous avez un téléphone, je vais prendre mon cas personnel, j'ai un téléphone qui est compatible 5G. Alors, j'active pas spécialement la 5G parce que je consomme pas assez de débit dessus je consomme pas assez de données, je trouve, pour justifier d'augmenter la consommation d'électricité de mon téléphone et donc avoir besoin de le recharger plus souvent. Je préfère avoir un peu plus de batterie plutôt que de devoir le charger trop souvent. Et puis, j'ai pas un usage en bande passante qui est si important que ça sur un téléphone. Mais le problème serait le même si j'activais la 5G, c'est que quand je passe un appel, et c'est le cas quand même d'encore beaucoup de gens, lorsque je compose un numéro de téléphone, Les débruitages sont fournis. Je compose un numéro de téléphone, j'appelle, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur mon téléphone, et c'est le cas quand même encore de beaucoup de gens, le téléphone, si vous avez un téléchargement qui est fait en même temps, vous allez voir d'un coup le débit de votre téléchargement chuter drastiquement et retomber en fait sur un débit de 3G. Pourquoi? Parce que en fait, votre téléphone ne sait pas faire, ou enfin ne sait pas forcément faire, ou ne se n'est pas activé, ce qu'on appelle du VoLTE. Voice over LTE, LTE étant le nom de la technologie de la 4G en fait. Parce que ce qui est, c'est un empilement, les différentes évolutions du téléphone. Donc il y a eu la 2G, la 3G qui a été mise par-dessus, sur un canal à côté, mais voilà, les téléphones pouvaient basculer entre les deux. La 4G a été ajoutée, les téléphones peuvent aussi basculer entre les deux. Et lorsque la 4G a été ajoutée, la technologie 4G s'était destinée aux données à la base, et on a par-dessus le canal de données, on a ajouté la fonctionnalité d'appel, et on a appelé ça Voice over LTE. Mais, du coup, pourquoi le téléphone a besoin encore de rebasculer en 2G ou en 3G? Puisque le cas est couvert, le VoLTE existe. Pourquoi s'embêter? Pourquoi est-ce que le téléphone devrait arrêter d'être en 4G d'un coup? Et c'est là où ça devient vraiment... Alors, j'ai pas envie de dire rigolo, parce que moi, je trouve ça assez tragique, et je trouve que c'est des décisions que prennent les opérateurs qui, tout simplement, ne sont pas normalement des décisions qui devraient être à même de prendre, parce que je trouve ça assez désastreux d'un point de vue, en fait, écologique. Détailler un petit peu pourquoi. Lorsque vous voulez passer un appel avec votre téléphone portable, il y a quatre personnes qui sont impliquées. Donc, il y a vous et la personne que vous voulez appeler, votre téléphone et le réseau des différents opérateurs, mais surtout le réseau de votre opérateur. Finalement, comment votre opérateur contacte le destinataire, cet élément-là est important pour que l'appel fonctionne, mais il n'y a pas d'impact technique. Les réseaux entre les opérateurs, c'est leur tambouille, ils se débrouillent très bien comme ça. Mais donc, lorsque votre téléphone échange avec le réseau de l'opérateur, l'opérateur c'est quel est le modèle de téléphone. Il y a une base de données, en fait, à chaque fois qu'un téléphone a le droit de se connecter sur les réseaux mobiles, en fait, il y a un tampon, il y a une certification qui est donnée. Avec cette certification, il y a un numéro unique lié au modèle de téléphone. Et donc, lorsque le téléphone se connecte au réseau de l'opérateur, l'opérateur sait qu'il s'agit d'un iPhone 13 ou d'un, là, dans mon cas, d'un Sony Xperia 10-3, vive les noms à rallonge, hein, ou d'un Google Pixel, ou que sais-je encore. Donc l'opérateur le sait. Soit. Et le téléphone dit, le téléphone dans le protocole d'échange dit, je supporte cette technologie. Et donc, en l'occurrence, là, si mon téléphone essaye de se connecter auprès du réseau de mon opérateur, je vais le nommer Free, mon téléphone se connecte et dit, bonjour, je supporte la voix par-dessus LTE, donc la voix en 4G. Le problème, c'est que mon opérateur, donc mon téléphone gère la 5G, a un système d'exploitation compatible 5G, enfin compatible avec le VoLTE, pardon. Il y a tout ce qu'il faut normalement, mais l'opérateur a décidé que seule une liste précise de téléphones était autorisée à faire du VoLTE. En l'occurrence, mon téléphone, lorsque je l'ai acheté, je voyais pas l'intérêt de prendre le téléphone au-dessus parce que j'avais la 5G déjà dessus dont j'avais pas forcément besoin, donc je voyais pas l'intérêt de payer plus pour quelque chose que j'allais pas exploiter, au contraire qui risquait même d'être moins pratique pour moi parce que apparemment l'autonomie était moins bonne. Mais donc le Sony Xperia 10-4 est autorisé par Free Mobile, mais ils ont décidé que le 10-3 ne le serait pas, sans justification, sans donner d'autres éléments. Donc déjà, en fait, aujourd'hui, si vous achetez un téléphone reconditionné, votre opérateur pourra peut-être vous rejeter d'ici un an, ou peut-être, enfin, soit à la fermeture de la 2G ou à la fermeture de la 3G, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, premier problème. Et sachant que ça, ce point-là, en fait, c'est l'opérateur qui a décidé que ils choisissaient quel téléphone était autorisé. C'est une décision arbitraire de l'opérateur. Ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'arbitraire. Donc premier problème, les téléphones, si vous achetez aujourd'hui du reconditionné, je vous invite à faire attention à ce que le téléphone soit compatible avec le VoLTE sur le réseau de votre opérateur. Moi, je vais peut-être devoir changer d'opérateur, mais je ne sais même pas encore comment tester la compatibilité. Il va falloir que j'aille en boutique et que je passe pour un martien avec des questions techniques. Mais laquelle, normalement, en fait, ce genre de questions, j'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi on se retrouve, du coup, à devoir poser des questions, puisque jusqu'à maintenant, vous aviez un téléphone 5G, vous pouviez parler sur les réseaux 5G. Pourquoi est-ce qu'on a cette nouvelle règle qui a été introduite par les opérateurs ? Je reste assez surpris. Alors, au début, il y avait peut-être des problèmes de compatibilité, mais voilà, il n'y a plus de problème de compatibilité aujourd'hui, donc c'est un peu étrange. Mais la fin de la 2G et de la 3G, et surtout la fin de la 2G pour le coup, c'est pas que ça le problème. La 2G, parce que la 2G, c'est un protocole qui est assez simple, le protocole GSM, et qui dit un protocole simple dit aussi c'est facile à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, la 2G est utilisée pour beaucoup d'autres choses que le téléphone, que pour passer des appels. Imaginons, vous prenez l'ascenseur, l'ascenseur tombe en panne. Vous appuyez sur le bouton d'alarme pour dire, ben voilà, il y a une panne, s'il vous plaît, je voudrais parler à quelqu'un pour qu'on vienne me dépanner. Ce système-là, vous n'allez pas forcer. Enfin, lorsqu'ils ont fait l'installation de l'ascenseur, ils ne se sont pas dit, on va lui mettre une ligne téléphonique. Ben déjà, les lignes téléphoniques n'existent plus en tant que telles. Maintenant, tout passe par une connexion, soit par une connexion Internet, soit par une connexion mobile. Donc là, en général, les ascenseurs disposent d'un système d'appel à travers les réseaux mobiles. Et bien, tous les ascenseurs qui sont occupés de ces solutions-là aujourd'hui, tous ne sont pas sur des solutions qui sont compatibles avec la 4G et le VoLTE. Et donc, les ascenseurs vont devoir être mis à jour pour gérer les nouvelles technologies, au risque, sinon, à la fin de l'année 2020, enfin, courant 2026, au risque de ne plus avoir de système d'appel d'alerte fonctionnel. Et si un ascenseur est oublié, ça risque de créer des gros problèmes. Maintenant, voilà, les ascenseurs, c'est une chose. On a aussi tous les systèmes de sécurité. Donc les caméras de surveillance ou même des trucs, les poubelles collectives dans la rue, les poubelles à moitié enterrées. On peut avoir des systèmes d'alarme automatique pour dire « Bon, ben, la poubelle est pleine, faut organiser la collecte. Ben, » ces systèmes-là, vu le volume de données envoyées, quel était l'intérêt de les équiper de 4G ? Il n'y avait aucun, ça allait augmenter le prix, augmenter la consommation d'électricité, on s'en fiche. Donc, ils ont été équipés d'une puce 2G à 2 francs 6 sous. Et voilà, c'était suffisant pour le besoin. Et bien finalement, maintenant, il va falloir mettre à jour même des poubelles. Encore plus rigolo, façon de parler, les voitures. Et là, ça aussi, ça va être compliqué. Les systèmes d'appel d'urgence dans les voitures, qui ont été rendus obligatoires, je ne sais plus quand, je crois il y a 5-6 ans, ces systèmes d'appel d'urgence dans les voitures ne sont pas tous compatibles avec les réseaux 4G et 5G. La plupart vont utiliser au plus simple, au moins cher, au moins énergivore, ils vont utiliser le réseau 2G. Ben oui, mais ça, du coup, ça ne marchera plus. Et là, quand on commence à tirer le fil, ça veut dire quoi ? Est-ce que on va se retrouver avec des voitures qui ne pourront plus avoir le système d'appel d'urgence, auquel cas on a quelque chose qui est imposé par la loi qui ne marchera plus ? Qui est responsable ? Alors, encore une fois, c'est des vrais problèmes, j'apporte pas de solution. Mais il y a toutes ces problématiques-là autour de l'arrêt des réseaux 2G et 3G, et aujourd'hui, malheureusement, on n'en parle pas encore trop. Et c'est des vraies questions qui s'occupent finalement de la fin de ces technologies. Et donc dans le cas de l'Australie, alors l'Australie, on a parlé tout de suite d'un arrêt du réseau 3G. Donc c'est un petit peu plus violent que pour nous, puisque l'arrêt du réseau 3G en France se fera un peu plus tard que fin 2025, heureusement. On aura un tout petit peu plus de temps. Mais la fin du réseau 3G en Australie, ça a été une catastrophe. Il y a eu des centaines de milliers de clients des différents opérateurs qui sont retrouvés bloqués. Il y a eu des communications désastreuses en disant « Non, tout va bien, il n'y a aucun problème. » Même des téléphones qui avaient été achetés récemment ont perdu la capacité de passer des appels parce que, la fonctionnalité VoLTE n'a pas fonctionné parce que l'opérateur a fait des mauvais réglages ou autre. Et même pour des téléphones achetés directement auprès des opérateurs et tout, ça a été extrêmement compliqué. La transition a eu lieu courant octobre. C'est toujours pas terminé. C'est toujours en discussion pour savoir qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été forcés de remplacer leur téléphone ou des gens qui ont dû changer d'opérateur pour espérer retrouver un service ou des choses comme ça. Mais c'est compliqué. Alors, dans les articles qui parlent du cas de l'Australie, la France est donnée un exemple en disant l'Australie a arrêté la 3G en 2024. En France, ce ne sera pas avant 2028. Mais 2028, ce n'est pas dans si longtemps que ça par rapport à ce que devrait être la durée de vie d'un téléphone et par rapport à ce que va être la durée de vie d'une voiture, d'un ascenseur, d'une caméra de sécurité. Tous les objets qu'on a pu déployer avec des connexions, qu'est-ce que ça va devenir ? Et donc là-dessus, l'impact écologique est assez majeur. Tout ça pour quel gain ? Est-ce que ça coûtait si cher que ça aux opérateurs ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un seul opérateur d'ailleurs pour qu'il fasse le suivi des objets connectés ? J'ai pas de réponse à tout ça, mais il y a une vraie problématique. D'ailleurs, au niveau des exemples de technologies utilisant la 2G. Autre exemple qui a été donné, c'est des défibrillateurs. Alors normalement, il n'y a plus de défibrillateurs avec des transmetteurs 2G, mais il y en a peut-être encore, et là, le transmetteur n'est pas dans le patient, heureusement, mais est-ce que ça aurait bien été mis à jour ? Et tout l'outillage médical qui a des transmissions automatiques, est-ce que tout cet outillage-là a été mis à jour ou le sera dans les temps ? Vu ce que coûte le matériel médical en plus, l'addition risque d'être un peu salée. Donc ça, ce sera une belle affaire à suivre. Et donc, la déclinaison était un petit peu longue. Il n'y a personne pour me brider. Et puis le sujet était assez technique et assez complexe. Donc ça valait le coup, je pense, de passer un peu de temps dessus. On va s'écouter un deuxième morceau de musique pour que je reprenne mon souffle et que je reprenne les brèves. Juste après, on va écouter I Want You de Neon Night Club. Toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. A tout de suite. c'était Neon Night Club I Want You, toujours sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campusplusline.com. C'est toujours les codes avec nous et on va faire la suite des actualités des dernières semaines écoulées. Alors on va faire un petit peu tout. Là, on va essayer de parler un peu de logiciels, notamment, donc les sorties logicielles, puis quelques petites annonces autour de tout ça. Et tout d'abord, un sujet qui me tient assez à cœur et qui c'est une bien triste nouvelle, je trouve, qui nous vient des États-Unis. Et ça concerne la préservation des vieux jeux vidéo. Donc les bibliothèques en ligne de préservation de vieux jeux vidéo, donc bah, notamment on peut penser à archive.org qui essaye de préserver un maximum de choses de l'internet, mais aussi tout contenu numérique, y compris des vieux jeux vidéo. Eh bien, il y a un problème, c'est que lorsqu'on veut proposer des vieux jeux vidéo pour jouer en ligne, mais voilà, pour découvrir ce qu'était le jeu, d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans, ben certains de ces jeux avaient des protections anti-copie, ou des protections juste pour interdire la possibilité de jouer en ligne comme ça, sans avoir le jeu avec soi. Lorsque le jeu était vendu, cette protection était entendable. Mais là, maintenant qu'on veut préserver le jeu, parce que l'éditeur ne gagne plus un centime sur le jeu, le jeu n'existe plus, on ne peut plus l'acheter nulle part. Donc, selon toute logique, le jeu pourrait être diffusé pour préserver, justement. Je sais que beaucoup de gens ne voient pas ça comme ça, mais les jeux vidéo, c'est un pan de la culture. C'est une culture en tant que telle. Alors, il y a des jeux vidéo, effectivement, les FPS n'ont pas forcément de scénario très avancé, mais il y a des jeux vidéo qui ont tout un côté d'histoire ou aussi de comment les jeux vidéo sont construits. C'est toute une culture et il faut essayer de la préserver, justement, plutôt que de se dire non, lorsque c'est sorti, il y avait une protection contre la copie, on ne pourra jamais l'enlever et du coup le jeu va disparaître. Est-ce qu'on veut vraiment que de la création humaine puisse disparaître juste parce que certains s'accrochent non pas à des profits, mais c'est pas clair. En fait, on a eu la clarification maintenant de pourquoi ils s'y opposent, et le problème, c'est que le US Copyright Office, donc le bureau de la propriété intellectuelle aux États-Unis, a refusé d'autoriser les bibliothèques en ligne à contourner les protections anti-copie. Et donc, pourquoi ça a été refusé? Notamment, la Entertainment Software Association, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de divertissement, grosso modo, ont indiqué qu'il y avait un risque significatif que des jeux vidéo préservés soient utilisés à des fins récréationnelles. En gros, pour s'amuser. Donc, en gros, l'idée, c'est, non, il y a un risque qu'on puisse jouer avec les jeux vidéo d'il y a longtemps, et du coup, non, c'est trop dangereux, donc on veut pas. Et là, c'est quand même assez ridicule de se dire, ils ont peur qu'on puisse jouer avec un jeu vidéo d'il y a 20 ans, donc non, il faut plus que le jeu vidéo d'il y a 20 ans existe. C'est tout. Puis au passage, comme ça, il y aura quelques jeux vidéo qui vont pouvoir rééditer ad nauseam. Par exemple, Mario Bros, le premier Mario Bros, je sais pas combien de fois on a pu le voir sur les consoles Nintendo, et à chaque fois, vous voulez y jouer sur votre nouvelle console, vous devez le racheter. Puis rachetez-le encore une fois à la console suivante, et à la suivante, etc. Alors que, soyons quand même assez honnêtes, le jeu vidéo Mario Bros, le premier Mario de la première NES, il n'y a pas de gros efforts à faire pour qu'il soit disponible sur les dernières consoles, et c'est un jeu qui a été largement amorti, et ceux qui vont y jouer, je pense pas que quelqu'un qui joue à Mario au premier Mario soit quelqu'un qui va décider du coup de pas jouer à d'autres jeux plus récents. C'est les deux sont pas en opposition, mais pour les éditeurs de jeux vidéo, malheureusement, c'est le cas, et donc aux États-Unis, ça a été tranché en leur faveur, hélas. Donc on verra ce que ça pourra donner à l'échelle au niveau européen, mais si c'est interdit aux États-Unis, le problème, c'est que les efforts qui pourraient être faits là-bas ne nous bénéficieront pas. Et ça risque aussi de donner un mauvais exemple. On va continuer sur les logiciels, on va parler de sorties logicielles, de petites blagounettes aussi qu'il y a pu y avoir. Donc, dans les sorties logicielles ces dernières semaines, alors, il est sorti, ouais, non, il n'est pas encore sorti, je crois, il est presque sorti, GIMP 3.0, ça faisait très longtemps qu'on l'attendait, et l'une des dernières versions, la première release candidate, mais donc l'une des dernières versions avant la sortie de la vraie version 3.0 de GIMP est sortie. Alors, je ne suis pas graphiste, donc je ne suis pas la meilleure personne pour lister tous les changements que c'est, mais c'est une version majeure, puisque la dernière version... Enfin, le terme majeur n'est pas suffisant, puisque la version 2 de GIMP est sortie il y a 20 ans. Donc là, c'est une mise à jour colossale, ça fait très longtemps qu'on l'attendait. Alors, il y aura des problèmes de compatibilité avec certains plugins ou autres, mais normalement, le terrain a été préparé de longue date. Alors, il y a des changements un peu partout. Il y a des changements sur l'interface. L'interface est plus moderne. Normalement, les performances sont meilleures. Il y a une meilleure gestion de la colorimétrie. Il y a une meilleure gestion de différents formats d'image, des différentes couches, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous êtes graphiste. Si vous voulez faire du graphisme avec du logiciel libre, GIMP est une bonne solution, je pense. Maintenant, c'est pas trop mon cas de faire du graphisme. Pour le peu de retouches d'image que je fais, GIMP effectivement fonctionne plutôt bien. Autre logiciel majeur, alors là ça parle encore à moins de gens, mais c'est pour montrer que on peut le faire aussi avec du livre sans dépenser une fortune. FreeCAD 1.0 est sorti. Alors FreeCAD, c'est des logiciels de conception et de modélisation sur ordinateur. Et donc FreeCAD 1.0, c'est la première version considérée comme vraiment complète de ce logiciel. C'est l'une des références en logiciel libre de conception, de modélisation de pièces. Alors, ça paraît très abstrait comme ça. C'est très utile pour les gens qui souhaitent faire du do-it-yourself, qui veulent créer des objets ex nihilo. Vous pouvez créer votre modèle avec FreeCAD et ensuite l'envoyer soit sur une imprimante 3D, soit l'envoyer à des services d'impression en ligne. Ça peut être une solution. Et donc, n'hésitez pas. Là, alors, j'ai très peu d'expérience en conception par ordinateur, mais le gros de mon expérience date de mes années de lycée, qui était il y a longtemps, et avec SolidWorks. Donc, je ne saurais dire ce que ça vaut. Malheureusement, j'ai pas du tout assez de temps pour me lancer là-dedans. Mais voilà, c'est un logiciel qui était en développement quand même depuis 20 ans, donc il était temps. Et il y a pas mal d'éléments qui ont été corrigés par rapport à avant pour essayer de... pour régler des bugs, notamment au niveau de la gestion de l'atelier d'assemblage de pièces. Autre nouvelle, on va parler un peu de distribution Linux. On va faire donc, juste le rappel quand même. Linux, c'est un logiciel que vous ne pouvez pas utiliser tout seul. Il faut y adjoindre tout un ensemble de logiciels. C'est le principe d'une distribution. Et donc, quelques nouvelles de distribution Linux. Donc Fedora, l'une des distributions Linux majeures, a sorti sa version 41 fin octobre. Et pour la version 42, il y aura un petit changement. Jusqu'à maintenant, Fedora mettait en avant GNOME. Désormais, GNOME et KDE, donc les deux interfaces graphiques majeures pour Linux, vont être mises à égalité au sein du projet Fedora. Donc normalement, lorsque vous téléchargerez, de la même façon, vous téléchargez soit la version KDE, soit la version GNOME. Et alors, je ne vais pas vous faire la liste des changements de Fedora 41 et 42, ça n'a pas grand intérêt. Et par contre, un mouvement qui est assez surprenant, les projets GNOME et le projet KDE ont annoncé travailler à la mise en place de leur propre distribution, alors sûrement un dérivé d'une distribution existante, afin de mettre en avant leur logiciel et de montrer comment ça peut être bien installé, bien intégré. Alors, c'est assez surprenant, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas leur rôle, c'est pas ce qu'ils faisaient. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce rôle-là ? Alors, effectivement, ce qu'ils mettent en avant, c'est la possibilité de bien travailler l'intégration, d'avoir un système vraiment propre pour avoir le moins de bugs possible. Mais l'autre aspect, ça veut dire, oui, mais si une distribution a juste fait une configuration légèrement différente, est-ce que ça veut dire que vous allez juste refuser cette configuration alors qu'elle peut être tout à fait logique et c'est juste que c'est des choix que vous n'avez pas voulu faire. Donc, le sujet va être assez intéressant à suivre les prochaines années si ces deux projets continuent dans ce sens-là parce que Effectivement, on s'éloigne beaucoup du modèle du bazar qui avait lieu au sein des distributions Linux, où il y avait plein de distributions qui intégraient plein de logiciels différents. Si on commence à s'orienter vers des gros projets qui font leur propre distribution, qu'est-ce que ça va devenir? Et autre grosse distribution qui pourrait apparaître, même si celle-là, c'est pas les mêmes enjeux, l'Union européenne pourrait se lancer dans la réalisation de sa propre distribution Linux pour ses propres usages, mais aussi pour diffusion au sein de l'Union européenne, En fait, l'idée étant de respecter les principes de souveraineté numérique. Alors, je ne suis pas sûr que prendre des tas de logiciels existants, peu importe d'où ils viennent, et mettre un logo Union européenne dessus, je ne suis pas sûr que ça améliore grand-chose sur la souveraineté. Mais je peux être un peu médisant sur ça. À suivre, là aussi. Et quelques petites nouvelles logicielles un peu moins ouvertes. On va parler un petit peu... Alors, Android, plus ou moins ouvert, mais... Là, Google a décidé de faire un changement. A décidé de pousser encore plus au sein d'Android le fait d'avoir 7 ans de mise à jour. Parce que aujourd'hui, les téléphones qui partent à la poubelle au bout de 3 ans parce que il n'y a plus de mise à jour, c'est assez difficile à accepter quand on voit l'impact écologique, l'impact en termes de ressources et aussi tout simplement le prix d'un téléphone portable. Se dire qu'on achète un téléphone 300, 400, 500 euros et dans 3 ans il part à la poubelle, c'est quand même assez difficile. C'est anormal de devoir... Je comprends pas le besoin de devoir remplacer le téléphone tout le temps. Il y a la course à la performance d'une part et où le fait que les gens peuvent avoir des téléphones plus puissants et on va plus optimiser les applications, c'est pas grave. Mais d'autre part, le fait de plus avoir de mise à jour, ça c'est assez gênant. Donc Google avait commencé à travailler là-dessus, donc c'est un travail de longue haleine qu'ils font, mais avec plusieurs étapes pour s'assurer de la mise à jour d'Android. Donc là, ce qu'ils espèrent, c'est... le projet est relativement compliqué, tout expliqué ici serait relativement pénible, je pense déjà, parce que la radio s'y prête pas forcément bien, puis... J'avoue, j'ai pas une grande maîtrise de tous ces processus-là au sein d'Android parce que c'est quand même assez pointu et je ne suis pas Android. Mais donc l'idée étant, ils ont découpé de plus en plus le système pour pouvoir permettre une mise à jour de plus en plus d'éléments au fur et à mesure de la vie du téléphone portable. Et donc leur objectif, c'est vraiment d'avoir un support de 7 à 8 ans pour les téléphones portables. Alors au début, ça va se faire surtout par les téléphones haut de gamme. Mais au fur et à mesure, les téléphones qui seront compatibles Android, qui seront vendus avec Android, devront tous être compatibles avec ce principe de mise à jour-là. Donc une mise à jour de 7 ans. Et sachant que, petit rappel, les lois européennes sont en train de se durcir en imposant aux fabricants le support pendant un certain temps. Donc à suivre. Et puisqu'on parle de support de matériel, un fabricant de matériel informatique, donc de routeurs, en France on n'en utilise pas tant que ça parce que y a les box fournies par les opérateurs qui ont souvent ce rôle-là au sein des différents foyers. Mais donc là il s'agit de D-Link qui vend des routeurs et notamment des routeurs VPN. Et donc D-Link a annoncé que tous les utilisateurs de certains modèles qui n'étaient plus supportés sont priés de les abandonner et d'acheter des nouveaux modèles à la place. Alors, ils sont sympas, ils font une petite réduction de 20% sur le prix du nouveau modèle, mais la raison de cette annonce, c'est qu'une faille de sécurité critique a été trouvée. Et comme le routeur en question n'est plus supporté, n'a plus de mise à jour, même s'il y a une faille critique, c'est pas grave. On va pas faire d'exception et pas faire de mise à jour. On va vous demander de mettre à la poubelle le routeur. On va vous demander de mettre à la poubelle du matériel alors qu'il y a un système de mise à jour juste parce que on ne veut pas faire la mise à jour. Ce genre de comportement crée, c'est une forme d'obsolescence programmée. Maintenant, est-ce que les fabricants devraient être responsables pendant 10 ans du matériel, je ne sais pas, mais dans l'eau, il y a du matériel qui était supporté jusque mai 2024. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin du support. Du coup, c'est du matériel qui était encore supporté il y a 6 mois. Mais voilà, on a passé la date, terminé, la mise à jour n'aura pas lieu. Et donc, toutes les personnes qui ont ça, qui ont ces matériels-là, alors il y en a peu en dehors des États-Unis, heureusement. Enfin, heureusement pour vous, auditeurs, mais ça peut se produire sur n'importe quel fabricant pourrait avoir ce même genre de politique. Ben là, vous êtes coincé, vous n'avez pas de mise à jour. Point. Et tous les fabricants ont eu ce genre de procédé. Ou des trous dans la raquette. Hein. Il y a eu des fabricants qui ont eu Apple, au milieu de ses transitions de processeurs, il y a eu des machines qui ont été supportées très peu de temps. Mais tous ont ce genre de choses. Et voilà, on considère ça normal. Donc, j'en ai déjà parlé, le projet de CRA, Cyber Security Resilience Act, donc le projet européen de loi pour imposer aux fabricants un meilleur support. Moi, j'applaudis des deux mains ce projet-là, parce que justement, ça interdira ce genre de comportement voyou. Et allez, une dernière petite brève, vraiment, pour noter un point sur lequel je vous invite à faire attention, notamment là, avec les fêtes de fin d'année en cas d'achat de matériel. Si vous achetez un ordinateur pour Windows, c'est un point qui est un petit peu compliqué à voir. Il y a des ordinateurs portables qui commencent à être vendus avec des puces ARM. Donc au lieu d'avoir un processeur Intel ou AMD, donc qui parle la même langue que les processeurs depuis 40 ans, c'est un processeur ARM, la langue des puces, des téléphones portables, des tablettes et autres. Donc soit, vous avez un Windows qui fonctionne dessus, mais il y a des problèmes de compatibilité tout simplement avec ça, parce que c'est pas parce que Windows sait utiliser avec tout un ensemble de mécanismes, Windows va savoir utiliser certaines applications qui n'ont pas été faites pour ARM, mais voilà, il y a une couche de compatibilité, mais la couche de compatibilité ne couvre pas tout, et notamment ne couvre pas les pilotes de périphériques et notamment les pilotes d'imprimantes. Et donc là on commence à avoir des retours. Et Microsoft commence à le dire qu'effectivement, il y a des problèmes autour de tout ça. Des gens qui utilisent des imprimantes et qui ont des PC ARM, donc des PC vendus comme ça, et où leur imprimante n'est pas compatible parce que le fabricant de l'imprimante, son logiciel d'installation juste n'est pas compatible avec ça. Et c'est pour ça que ça a toujours été compliqué, l'idée d'avoir une transition là-dessus sur les PC, et ça va a priori avoir lieu. La difficulté, en tout cas, commence à être là. Je pense qu'on a fait une bonne émission. On va bientôt se quitter. Je vous remercie d'avoir écouté. Alors, c'est toujours un plaisir de faire cette émission, même si c'est quand même un poil plus difficile quand on est tout seul. Mais je suis vraiment désolé pour les émissions manquées ces derniers temps. J'avoue, ça m'avait beaucoup manqué. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'on se retrouvera dans deux semaines avec Alexandre cette fois. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et j'espère à dans deux semaines. Bye bye.
Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glous.